Je suis en compagnie d'Arnaud Aurin. Nous parlons de votre nouveau livre, Les savoirs perdus de l'économie, contribution à l'équilibre du vivant, paru aux éditions Gallimard, où nous nous trouvons dans la collection NRF Essais. Votre livre, Arnaud Aurin, est un livre d'histoire, et particulièrement d'histoire des sciences et des savoirs économiques. Pouvez-vous nous expliquer votre titre, Les savoirs perdu de l'économie, et sous-titre, contribution à l'équilibre du vivant.
Merci d'abord de votre invitation. Alors ce titre, effectivement, il est important parce que la science économique, aujourd'hui, telle qu'elle s'est constituée depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, avec un renforcement très important à la fin du XIXe siècle au travers de ce qu'on appelle la théorie néoclassique, elle a laissé de côté un certain nombre de... Alors, on peut les qualifier de sciences, je les qualifierais plutôt de savoirs, qui s'occupaient eux aussi de la satisfaction des besoins humains, mais pas seulement, mais pas que, avant ou de manière concomitante à la naissance de cette science, à la fin du XVIIIe siècle, disons dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Donc il y a des savoirs économiques qui se sont perdus au fil du temps, dans une optique qu'on qualifie en général de téléologique, au sens où des gens, des savants vont aller rechercher la préhistoire d'une science, on a pu incorporer certains de ces savoirs perdus à l'intérieur d'une histoire longue de la science économique. Et c'est précisément ce que je réfute, ou ce que je tente de réfuter. C'est-à-dire l'idée selon laquelle, eh bien non, en fait, ces savoirs n'étaient précurseurs de rien. Ça, c'est une vision complètement biaisée et orientée de l'histoire de la pensée. Ces savoirs n'étaient précurseurs de rien. Ils étaient, ils avaient leur vision propre, leur méthode. Ils avaient des buts qui n'étaient pas ceux de la science économique. Et l'idée de ce livre, c'est de les exhumer, car il est vraisemblable qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire sur les périodes passées, mais également sur ce siècle qui s'ouvre, le 21e siècle. Et j'expliquerai très certainement pourquoi, avec le sous-titre, en fait. Donc d'abord, les savoirs perdus de l'économie, effectivement, c'est une tentative d'archéologie de science ou de savoir des XVIIe et XVIIIe siècles européens qui vont être engloutis en gros au début du XIXe siècle, qui vont disparaître dans les premières années ou les premières décennies du XIXe siècle et qu'il s'agit d'exhumer. Et il y en a deux en particulier, celle qu'on appelle la science du commerce et celle qu'on appelle la physique économique ou économique, on y reviendra. Le sous-titre, contribution à l'équilibre du vivant, il explicite l'idée selon laquelle ces savoirs, ils ont probablement quelque chose à nous dire aujourd'hui. Ils ont quelque chose à nous dire aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien parce que ces savoirs anciens, ils s'inscrivent seulement partiellement dans ce que l'anthropologue Philippe Descola a appelé l'ontologie naturaliste, c'est-à-dire cette grande séparation entre la culture et la nature, ou entre l'être humain et le reste, les autres animaux, les forêts, etc. etc. Cette ontologie naturaliste, elle naît, évidemment, comme le dit Descola, autour du XVIIe siècle, elle progresse ensuite dans les décennies et siècles suivants, mais elle n'est pas complètement dominante, probablement, jusqu'au XIXe siècle, et encore, ça dépend où dans le monde et dans quel type de population. Dans les populations rurales européennes, il n'est pas du tout certain que l'ontologie naturaliste soit complètement dominante, même au XIXe siècle. Donc on a des savoirs perdus des XVIIe, XVIIIe siècle qui ne s'inscrivent que partiellement dans l'ontologie naturaliste. Et aujourd'hui, cette ontologie naturaliste, on le sait, elle est progressivement remise en cause. Remise en cause parce que nous accordons de plus en plus de droits aux autres animaux, aux bêtes, que des fleuves ou des forêts acquièrent des personnalités juridiques. Bref, qu'un autre rapport aux autres espèces vivantes est en train de s'instituer. Et que, probablement, le concept lui-même de nature, comme le dit Philippe Descola, est probablement un concept dépassé. Or, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que ces savoirs anciens des XVIIe, XVIIIe siècles, ils s'inscrivent à la fois un peu dans l'ontologie naturaliste, mais aussi dans un autre rapport aux autres espèces vivantes que l'on pourrait qualifier, là encore avec Philippe Descola, d'ontologie analogique, c'est-à-dire l'inscription de l'être humain dans une grande chaîne des êtres, et qu'ils réfléchissent donc à une satisfaction des besoins humains à l'intérieur d'un équilibre des espèces. Et donc, il est vraisemblable que, de nos jours, en ce début de XXIe siècle, ces savoirs, perdus pour le moment, j'espère pas pour toujours, bien sûr, ont quelque chose à nous dire sur un nouveau rapport aux autres espèces du point de vue de ce que nous, on appelle l'économie, hein, c'est-à-dire l'idée selon laquelle eh bien, il y a des besoins à satisfaire pour les êtres humains.
Alors commençons par l'une, la science du commerce, par exemple. Ce que l'on apprend avec vous, c'est que cette science du commerce est plutôt du côté des vérités locales et plutôt du côté du non reproductible. Donc, si on emploie les termes latouriens, on est dans le local, on est sur le sol, on a atterri, on est localisé, on n'est pas dans le global. C'est-à-dire que tout oppose la science du commerce à l'universel, à quelque chose qui serait partout, sur tous les territoires qui pourraient s'appliquer. Et donc déjà, cette différence-là, cette distinction-là, on comprend par votre recherche que c'est pour ça qu'elle n'a pas eu vocation à être, à devenir des lois de gouvernement, à ce qu'elle ne soit pas utilisée de manière identifiée par les différents gouvernements, par l'État, justement parce qu'elle n'était pas du tout universelle. Pouvez-vous nous parler de cette science du commerce ?
Oui, alors le premier savoir ou la première science que j'étudie dans ce livre, dans les trois premiers chapitres, c'est donc la fameuse science du commerce des 17e et du 18e siècle, 17e et 18e siècle, qui a longtemps précisément été interprétée comme une préhistoire de ce qui va naître quelques années plus tard ou quelques décennies plus tard et qu'on va appeler économie politique, puis science économique. Toujours, les chercheurs ont essayé de tirer cette science vers quelque chose qui serait précisément un savoir universalisable avec des lois qui devraient s'appliquer en tout temps et en tout lieu. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que ça, c'est réellement une toute petite partie de la science du commerce, un pas dans lequel certains de ces théoriciens vont un peu s'engager dans les années 1750, mais ils vont très vite, en fait, très vite, plutôt faire demi-tour dans les années 1760, au moment où précisément naît l'économie politique avec François Quesnay, Victor de Mirabeau et la physiocratie. Où là, les théoriciens de la science du commerce vont se rendre compte qu'il y a un problème. En fait, qui a un problème avec ces lois universelles généralisables. Alors, cette science du commerce, elle trouve son origine dans ce qu'on appelle l'ars mercatoria, l'art des marchands, en particulier au XVIIe siècle, qui se développe d'une manière un peu nouvelle avec l'extension du commerce européen lié en particulier à l'exploitation du continent américain. On va avoir des manuels, en fait, qui vont commencer à être publiés, en particulier en Angleterre au début du XVIIe siècle, qui expliquent comment commercer avec le lointain. Et donc, ce sont des sortes d'ouvrages de géographie commerciale dans lequel on explique aux négociants eh bien, où sont les fleuves, les rivières, les types de pêche, les bois, les forêts, les types d'exploitation agricole qui se font outre-mer. Et donc qui explique à ces négociants comment ils peuvent commercer avec ces autres territoires. Donc on a une grande description, si vous voulez, du monde à l'intérieur de cet Ars Mercatoria. Et progressivement, cet Ars Mercatoria, il va devenir un art de l'observation, une science qu'on pourrait qualifier de déterministe, qui s'appuie sur les connaissances de la géographie, de ce qu'on appelle à l'époque les climats, c'est-à-dire les précipitations, bien sûr, les températures, bien sûr, mais aussi la nature des sols, les exhalaisons, c'est-à-dire qu'est-ce qui se dégage de ces sols, la façon dont sont exploitées les forêts, les steppes, les différentes sortes de végétation qui y poussent, et les latitudes, bien sûr. Progressivement, donc, cette science déterministe va aussi devenir une histoire du commerce. On va faire l'histoire des produits, des marchandises, des biens qui ont été commercés ou qui sont commercés sur le territoire en question. À partir de là, en fait, un certain nombre d'anciens négociants, en règle générale, vont commencer à construire ce qu'ils appellent eux-mêmes une science du commerce. C'est-à-dire la façon dont, à partir de ces territoires donnés, à partir de cette géographie, il est possible de devenir un bon négociant. Donc d'en tirer à la fois de bonnes techniques, mais aussi ils vont commencer, certains d'entre eux, à partir du début du XVIIIe siècle, ils vont commencer à produire quelques abstractions sur ce qui ne sont certainement pas des lois, hein, et encore moins des lois naturelles, mais quelques abstractions sur des faits plus ou moins abstraits à partir de connaissances vernaculaires. Très vite, cependant, à partir des années 1750, on va avoir des doutes sur... On va avoir des doutes sur la façon dont il faut raisonner dans cette science du commerce. En fait, on a une école qui se crée à partir des années 1750 sous l'impulsion d'un ancien grand négociant de Cadix qui s'appelle Jacques-Vincent de Gournay, un natif de Saint-Malo, qui a fait, comme le disait Anne-Robert Jacques Turgot, le célèbre ministre de Louis XVI et économiste, qui a vu le plus grand commerce de la Terre, puisque Cadix, à l'époque, c'est la porte d'entrée des richesses venues de l'Empire espagnol et la porte de sortie des biens manufacturés qui vont s'écouler dans l'Empire espagnol, nonobstant la contrebande qui est évidemment immense. Jacques-Vincent de Gournay, il va rentrer en France à la fin des années 1740 en menant plusieurs des opérations publiques privées avec le ministre de la Marine, M. de Maurepas. Puis, il va, au décès de l'un de ses partenaires, prendre le titre de monsieur de Gournay et s'installer définitivement à Paris, quitter le commerce et devenir un haut fonctionnaire, même si le terme de fonctionnaire n'existe pas à l'époque, un haut fonctionnaire au bureau du commerce. Il va devenir intendant du commerce. Et donc, il va, à ce titre, s'occuper de toute la matière réglementaire négoce en France. Et à partir de ce moment-là, il va réunir autour de lui un cercle de jeunes gens qui, pour beaucoup également, sont issus du milieu commerçant. Alors, la plupart ont fait un moins grand négoce que lui, hein, mais la plupart sont issus du milieu commerçant et négociant. Et ils vont traduire, ces jeunes gens, un certain nombre de textes venus d'auteurs espagnols, d'auteurs anglais. Ils vont peu produire des textes de leur propre facture, mais relativement peu. Et ils vont pratiquer également ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé là, du collage de textes, hein. C'est-à-dire qu'ils vont mettre dans un même ouvrage plusieurs textes qui disent des choses contradictoires, avec une introduction qui nous explique que, eh bien, effectivement, il y a des choses qu'on trouvera des choses contradictoires dans ce livre, et sans conclusion, donc sans façon d'orienter le lecteur vers ce qu'il doit penser à la fin de tout ce qu'il a lu. C'est au lecteur de se forger une opinion. Alors ça, c'est un point très important de la science du commerce. Hein. C'est un point très important de la science du commerce. La science du commerce, elle utilise un langage relativement simple. Elle ne fabrique pas beaucoup de mots nouveaux. Elle ne fabrique pas beaucoup de concepts, voire très peu. Elle utilise des savoirs vernaculaires, ceux des marchands et des négociants, de tous ces gens qui ont voyagé dans ces pays lointains ou qui se sont appuyés sur des savoirs venus de ces pays lointains, sur des savoirs parfois de fermiers et de laboureurs également, hein, savoirs vernaculaires de praticiens en fait, savoirs vernaculaires de praticiens qui vont permettre d'établir un certain nombre de faits en fonction des environnements locaux. Et à partir de là, la science du commerce va construire un savoir qu'on pourrait qualifier de dialogique, au sens que donne à ce terme le théoricien de la littérature du XXe siècle, Michael Bakhtin. C'est-à-dire l'idée selon laquelle, dans un même texte, on va trouver plusieurs voix discordantes, voire même divergentes, qui nous disent des choses souvent contradictoires, et sans qu'un point de vue domine contre l'autre. Donc, si je prends l'exemple des traductions, traductions libres en général, pratiquées par les membres de ce cercle des années 1750, eh bien, on se rend compte que il y a une pensée par strate. C'est-à-dire qu'on traduit l'auteur, on met des notes contradictoires qui disent autre chose que l'auteur, mais on n'efface pas ce que raconte l'auteur. Et puis on digresse, parfois également, en disant autre chose que ce qu'a dit l'auteur. Donc cette pensée par strates, où les strates précédentes, les couches précédentes n'effacent pas, les couches supérieures n'effacent pas les couches inférieures, eh bien, elles doivent laisser au lecteur le soin de délibérer, à la fin, sur ce qu'il doit penser. Donc, on a dans ces années 1750... à la fois ce langage simple, c'est cette science qui est fondée sur des savoirs vernaculaires de praticiens, sur des savoirs locaux également, hein, dans une pensée qui est dialogique, et en même temps, on a la tentation, chez certains membres du cercle de Gournay, de aller vers des principes un peu plus abstraits et un peu plus généraux. Cette tendance ne va pas durer, en fait, puisqu'au même moment, à la fin des années 1750, c'est la naissance, avec François Quesnay et Victor Riquetti de Mirabeau, de la première école de pensée qui va fonder réellement l'économie politique et qui va raisonner à partir de lois naturelles. En particulier, la loi naturelle de la liberté du commerce absolue et la loi naturelle de la propriété privée inviolable. À partir de ces deux lois naturelles, les physiocrates vont tirer un certain nombre de lois économiques qui doivent s'appliquer en tout temps, en tout lieu, qui sont parfaitement universalisables et à partir duquel le politique doit toujours se positionner. Il ne peut et ne doit déclarer que des lois économiques qui sont conformes à ce qu'ils appellent l'ordre naturel, à ces lois naturelles de l'économie. Très vite, les scientifiques du commerce vont sentir le danger. Ils vont sentir le danger d'une science nouvelle qui s'applique non plus sur des terroirs locaux, non plus à partir d'un savoir vernaculaire, non plus dans une perspective dialogique où c'est au lecteur de se faire une opinion, mais dans une proto-technocratie avec laquelle il va falloir maintenant compter et qui ne laisse plus de place réellement à la délibération. La science, Elle doit être inculquée, elle doit être apprise. La science économique des physiocrates, elle doit être inculquée, elle doit être apprise, elle ne doit plus être discutée ou disputée. Donc très vite, les scientifiques du commerce, comme François Véron de Forbonnais, par exemple, vont s'opposer à la physiocratie et à sa science universelle. Et à la fin des années 1760, le même Forbonnais va publier un livre important, Principes et observations économiques, où il s'éloigne plutôt de la tendance qu'il avait eue une dizaine d'années auparavant de recherche de principes abstraits, et défendre désormais ce qu'il appelle les vérités locales. Les fameuses vérités locales qu'on va retrouver également chez un théoricien comme Ferdinando Galiani, qui s'oppose lui aussi à la science économique naissante, hein, des physiocrates. Des gens comme Forbonnais ou Galiani, ils vont discuter là encore de nouveau à partir du point de vue des praticiens locaux, du point de vue d'un territoire, voire d'un terroir donné, en nous expliquant qu'il ne peut exister que des vérités locales et qu'il est très difficile, alors, voire impossible, de déduire des lois économiques à partir d'un ordre naturel ou de lois données, mais qu'il est aussi difficile d'induire, de pratiquer l'induction, hein, d'induire des principes généraux d'un certain nombre d'observations. Ça aussi, c'est compliqué. Le mieux, c'est de raisonner à partir d'un problème local et de circonstances locales et de tenter de trouver de manière concertée, de manière dialogique, la meilleure des solutions à un problème économique donné. Donc l'idée, c'est aussi, si vous voulez, d'en appeler au public. D'en appeler au public. C'est pour ça que j'ai qualifié la science du commerce de science démocratique. Alors même si le terme est peut-être un peu fort, du moins pour certains d'entre eux, l'idée étant toujours de publier des choses qui ne sont pas conclusives, qui ne s'appliquent qu'à un lieu et qu'en un territoire, ou voire un terroir donné, et pour lequel on demande au public de se forger une opinion. Ce qui s'apparente à quelque chose qui n'est pas très loin de ce qui se passe dans les cours d'Ancien Régime, qu'a bien identifié le sociologue Philippe Urfalino, en particulier au Parlement de Paris, ce qu'on appelle la réduction des opinions. On part de plusieurs opinions, et puis ensuite il y a des tours de parole, et on doit arriver à une forme de, qu'on pourrait qualifier de consensus, du moins à une opinion majoritaire qui va finir par s'imposer. Et c'est un peu l'idée de la science du commerce. C'est-à-dire qu'on va exposer plusieurs opinions, il va y avoir une fermentation des idées dans le public. Forbonnais nous dit, hein, l'économie, ça appartient à tous ceux qui savent lire. Donc là, on n'est pas dans le règne des experts. Là. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé également dans ce savoir disparu. On n'est pas dans le règne de l'expert, on n'est pas dans le règne de la proto-technocratie, on est dans la construction d'une forme de savoir et de connaissance par le débat.
Merci beaucoup de nous avoir exposé cette science du commerce, et on comprendra dans la deuxième partie de l'entretien, avec votre longue conclusion, comment tous ces éléments vont pouvoir aussi nous ouvrir vers des futurs souhaitables. Et ça, ce sera tout à l'heure dans la deuxième partie, parce que maintenant il faut qu'on parle de cette science économique, qui est en fait une physique économique, alors c'est un peu compliqué à prononcer économique, qui est donc une physique appliquée au monde naturel. Et là aussi, on voit que là, il y a un lien fort avec la Terre, avec ce qui compose véritablement la matière de notre monde. Là non plus, nous ne sommes pas dans des abstractions.
Oui, si avec la science du commerce, nous étions dans la matérialité, hein, très forte, dans le produit, ou dans la marchandise, dans ce qui circule, mais toujours ancré dans une réalité concrète, on se trouve avec la physique économique ou la science économique vraiment à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler le sol, le vivant, les autres espèces. Le vivant, absolument. Alors, la physique économique ou science économique, c'est une science qui naît à peu près au même moment que l'économie politique physiocrate. Elle naît dans les années 1740-1750, à partir des travaux d'un célèbre savant suédois que la plupart des gens connaissent pour sa qualification binomiale des plantes et des animaux. Ce savant, c'est Carl von Linné, le Suédois, dont on utilise toujours les travaux. Vous les voyez dans n'importe quel jardin des plantes le dimanche lorsque vous vous baladez. Carl von Linné, il va partir il va fonder sa science qu'il appelle économique, qui va, dans le cas français, se transformer en physique économique. Il va la fonder sur deux étages. Le premier étage, il fait référence à la notion d'économie comme ordre de la nature. Ce qu'on appelle, à partir du XVIIe siècle, l'économie de la nature. Alors là encore, dans une histoire intellectuelle traditionnelle, si vous ouvrez un manuel d'histoire de la pensée économique, vous allez vous rendre compte que l'économie, c'est apparemment la science de gestion d'un domaine foncier, c'est-à-dire science de gestion d'un domaine des esclaves, des plantes et des animaux, et que cette science, elle daterait de l'Antiquité, évidemment, avec le célèbre ouvrage en particulier de Xénophon. Alors, c'est vrai qu'il existe une science qui s'appelle l'économie et qui est une science de la gestion du domaine agricole, que l'on va retrouver jusqu'au XVIIIe siècle. Mais l'économie, c'est aussi ce qu'on appelle l'économie de la nature, en particulier à partir du XVIIe siècle, l'idée selon laquelle on a un équilibre général des espèces à l'intérieur du monde, hein, à l'intérieur de ce que nous on pourrait appeler le système Terre, peut-être, si on veut faire un peu d'anachronisme là. Cet équilibre général des espèces, cette économie de la nature, c'est le premier étage de la fusée de la science économique de Carl von Linné. L'idée selon laquelle la nature, elle est organisée en équilibre et que chaque espèce a une fonction particulière et qu'aucune de ces fonctions ne doit manquer pour que l'équilibre des espèces fonctionne. Mais deuxième étage de la fusée, de la science économique ou physique économique, c'est l'idée selon laquelle il y a un animal un petit peu différent des autres dans cette économie de la nature. Cet animal un peu différent des autres, c'est l'être humain. Alors c'est un animal, c'est Linné qui, le premier, en 1758, classe l'être humain la catégorie des animaux. Et en tant qu'animal, l'être humain a une fonction qui n'est pas différente de celle des autres animaux dans l'économie de la nature. Dans l'économie de la nature, les espèces supérieures doivent disséminer et réguler les espèces inférieures. Et donc les animaux doivent disséminer et réguler les plantes. Et les animaux supérieurs doivent disséminer et réguler les plantes et les animaux inférieurs. Et donc l'homme, en tant qu'animal, il a exactement la même fonction. Il doit disséminer et réguler, c'est-à-dire empêcher que prolifèrent les espèces inférieures. Alors l'être humain, il est donc le seul, mais il est aussi, donc il est le régulateur suprême, si vous voulez, et disséminateur suprême dans l'économie de la nature, mais il peut aussi la perturber. Il est le seul grand perturbateur et le seul grand régulateur, en fait, dans cette perspective. Et c'est ce qui amène Linné, deuxième étage de la fusée, à envisager une science qu'il appelle économique qui régulerait cette économie de la nature, ce grand équilibre des espèces. Science que seul l'homme peut appliquer. Alors cette science, elle se fonde sur deux éléments. L'histoire naturelle d'abord. Il faut que les populations humaines connaissent parfaitement leur environnement local, leur terroir, là encore. Pourquoi ? Pour pouvoir connaître toutes les propriétés des plantes et des animaux et donc satisfaire leurs besoins localement sans avoir besoin d'importer des choses qui viendraient de très loin et qui donc déséquilibreraient des environnements qui sont à de grandes distances. Connaître l'histoire naturelle également, c'est pouvoir acclimater, car selon l'INE et la science économique linéenne, on peut à peu près tout acclimater n'importe où et donc satisfaire ses besoins en acclimatant en particulier des végétaux. Connaître son environnement par l'histoire naturelle, c'est aussi moins dépendre de la tyrannie des grains, si on veut reprendre une expression de l'anthropologue James C. Scott, c'est-à-dire pouvoir se nourrir avec son environnement local qui n'est pas celui de la culture, de la monoculture en particulier céréalière. Donc ça, c'est d'abord l'histoire naturelle, qui est l'un des deux piliers de la science économique. Et le deuxième, c'est la physique des quatre éléments, la physique aristotélicienne, la Terre, l'eau, l'air et le feu. Il faut étudier à fond ces quatre éléments pour pouvoir transformer un certain nombre de choses naturelles, faire croître un certain nombre d'éléments naturels et ainsi mieux satisfaire les besoins humains. Et donc à partir de là, l'INE, dans un article de 1740 qui s'intitule « Principe de l'économie », va nous expliquer comment cette science peut se déployer et permettre à l'être humain de ne pas perturber l'économie de la nature et en même temps de mieux satisfaire ses besoins. Alors cette science, elle va connaître une fortune importante en Europe et en particulier en France sous le terme de physique économique et qui va se transformer peu avant la Révolution en physique économique puisque le graphème OE il va commencer à disparaître pour un certain nombre de termes, en tout cas dans les années 1770-1780. Alors on a des journaux en France qui vont s'intituler hein, « Bibliothèque physico-économique ». On a un journal qui va s'appeler « Le journal économique » dans les années 1750 jusqu'au début des années 1770, qui vont développer cette science, et qui vont faire la part belle, là encore, à des savoirs vernaculaires, à des savoirs situés. Et ce, grâce à un certain nombre de naturalistes très peu connus. Je pense en particulier à quelqu'un comme le chanoine Claude Boudet, du Lyonnais, qui va livrer beaucoup d'articles au journal économique autour de la physique des quatre éléments et autour de l'histoire naturelle. Je pense en particulier à un naturaliste lorrain comme Pierre-Joseph Bucoz, qui va être un grand plagiaire de l'INE et qui va lui aussi chercher à développer cette science économique, cette physique économique linéenne. Donc, des journaux, des savants relativement peu connus, des praticiens qui vont s'exprimer dans ces journaux et qui vont tenter, grâce à leur savoir vernaculaire, là encore, de résoudre des problèmes que l'on peut qualifier de locaux, des problèmes sur des zones relativement données, en nous expliquant que à l'intérieur d'un terroir, on peut trouver un grand nombre de ressources, que ce soit pour l'agriculture ou pour les manufactures. Cette science, elle a aussi une dimension d'opposition à la science savante des académies. Là encore, on peut voir une forme de conflit entre la science savante, qui serait celle des lois généralisables et universelles, et la physique économique, qui est une science beaucoup plus locale, beaucoup plus démocratique dans un certain sens, puisqu'il s'agit là encore de discuter avec des praticiens des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et il y a une forme d'hostilité vis-à-vis d'un savoir universel et général.
Alors on comprend maintenant un peu mieux votre titre, justement, et nous allons en venir à l'enjeu de votre livre, l'enjeu contemporain de votre livre. Ce que vous écrivez, que ces savoirs, vous voulez à la fois se construire et être opératif par le bas, vous venez de longuement en parler. Il ne visait pas l'universel, il n'édictait pas de loi applicable en tout temps et en tout lieu, vous vous y êtes attardé. Donc, il n'avait pas de mesures phares à proposer au gouvernement. Mais ces savoirs avaient une prétention totalisante, néanmoins, au sens où ils ne cloisonnaient pas les enjeux naturels et humains. Et c'est assez particulièrement fécond, vous venez d'en parler avec la physique économique. Et donc, vous écrivez que le grand intérêt en fait de ces savoirs est précisément le fait qu'ils ne sont ni tout à fait modernes, ni trop anciens pour contribuer à penser le bouleversement épistémique majeur en gestation dans nos sociétés contemporaines. Et vous terminez votre introduction avec ceci, c'est là-dessus que je voudrais vous interroger en fait, puisque vous utilisez les catégories ontologiques de Philippe Descola. Dans ces catégories ontologiques, on le sait, Philippe Descola a démontré que l'ontologie naturaliste, qui est la nôtre actuellement, a commencé à débuter en Europe au XVIIe siècle et a commencé à s'affirmer au XVIIIe siècle pour être pleinement efficace au XIXe siècle, mais qu'au XVIIIe siècle, il y avait encore, on va dire, de l'analogisme, puisque l'ontologie médiévale, là où vient l'Occident moderne, qui n'était pas moderne à l'époque puisqu'il était médiéval, c'était plutôt une ontologie analogiste. Ce qui vous fait écrire à la fin de votre introduction ceci. En fait, cette période est le miroir inversé de la nôtre. D'une part, l'ontologie analogique n'y a pas disparu, mais décline au profit du naturalisme, tandis qu'aujourd'hui, c'est ce dernier, donc le naturalisme, qui trébuche et l'analogisme qui refait surface. En ce début du XXIe siècle, l'hyperspécialisation des sciences est de plus en plus critiquée et le rapprochement des sciences de l'homme et de la vie désormais à l'ordre du jour. La science du commerce et la physique économique s'inscrivent dans ce syncrétisme à la fois naturaliste et analogique. Et vous poursuivez ainsi. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas impossible que ces savoirs du début de la modernité occidentale soient mieux adaptés que les sciences modernes pour penser les bouleversements contemporains. Ça, c'est la fin de votre introduction et on comprend bien là que vous posez des éléments pour le futur, le devenir, on va dire, de la science économique et politique dominante actuellement.
Oui, effectivement, la fin de l'introduction et la longue conclusion, qui est une sorte d'essai hein, sur le contemporain dont vous avez parlé, n'entend pas, évidemment, plaquer la science du commerce et la physique économique sur notre XXIe siècle. Il ne s'agit pas, certainement pas, de faire de renouveler ces sciences dans leur globalité pour en faire les savoirs qui guideraient les sociétés contemporaines. Ceci étant dit, effectivement, elles sont certainement très bonnes à penser pour notre présent. Elles sont très bonnes à penser pour notre présent, dans lequel nous avons un problème, et un problème qui date de la naissance des sciences modernes, qui est celui de la séparation entre les sciences dites humaines et les sciences de la nature, et qui renvoie évidemment à ce grand partage entre nature et culture. La science du commerce, et en particulier la physique économique, ce ne sont ni des sciences humaines, ni des sciences naturelles. L'idée générale, en particulier de la physique économique, c'est de réguler à la fois les sociétés humaines et ce que l'on pourrait appeler les sociétés naturelles, les autres espèces hein, qui nous entourent. Et les deux ne sont pas séparés. Les deux ne sont pas séparés. Or, il semblerait qu'en ce début de XXIe siècle, effectivement, de plus en plus l'ontologie naturaliste telle que Philippe Descola l'a définie est remise en cause. Elle est remise en cause à la fois par nous-mêmes, êtres humains, par l'idée selon laquelle eh bien, on comprend que les bêtes sont beaucoup plus proches de nous que ce qu'on a longtemps pensé et donc on leur accorde de plus en plus de droits, qu'un certain nombre d'éléments que l'on croyait extérieurs à nous eh bien, sont en fait des choses dont nous dépendons étroitement, très, voire très étroitement. Et ce dont on se rend compte de plus en plus du fait des effondrements écologiques en cours, c'est de l'interdépendance du vivant, de l'interdépendance des espèces. Et ça, c'est vraiment le point majeur sur lequel j'essaye d'insister dans la longue conclusion. Le problème de l'économie, c'est que cette science, jusqu'à nos jours, résonne très très peu en termes d'interdépendance des espèces, voire pas du tout, en fait. Elle considère qu'il existe, donc c'est une science purement naturaliste, elle considère qu'il existe une entité extérieure à nous dans laquelle on peut puiser ce que cette science appelle des ressources. Alors ces ressources, évidemment, elle comprend depuis une quarantaine d'années qu'il faut les protéger, les réguler. Et cela, on le fait en général en leur donnant un prix à ces ressources, en raisonnant sur le vivant à partir du système des prix. Mais ce vivant, il reste toujours, premièrement, extérieur à l'économie. On va essayer de l'internaliser un petit peu par le système des prix, mais on raisonne toujours en termes de ressources. On pense toujours qu'il y a quelque chose d'extérieur à nous qui s'appellerait ressources. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème de l'économie contemporaine, c'est qu'elle ne prend pratiquement jamais en compte cette notion d'interdépendance des espèces. Il n'y a pas aujourd'hui réellement de modèle économique qui, lorsqu'on réfléchit sur une baisse de taux d'intérêt ou une impulsion macroéconomique venue de l'État central comme une hausse des dépenses publiques, quel impact cela va avoir sur les insectes, sur les terres arables, sur les fleuves, sur les poissons, etc. etc. Les interdépendances du vivant, c'est le deuxième grand problème, ne sont jamais réellement envisagées comme telles.
J'aimerais utiliser un des exemples que vous citez dans votre conclusion. Je vous cite « Un article du Financial Times révélait en mai 2019 que sur 47 000 articles publiés dans les 50 plus importantes revues académiques d'économie et de gestion depuis l'an 2000, donc 47 000 articles, seuls 11 traitaient de biodiversité ou d'extinction des espèces. » Soit 0,02%. En septembre 2019, vous continuez, deux économistes britanniques ont publié un article qui commence par ces mots. Nous sommes désolés de le dire, mais nous pensons que les économistes académiques ont abandonné le monde. C'est effroyable.
Oui, le constat est très inquiétant. Si l'on prend, en fait, la très grande majorité de la profession, la très grande majorité de la profession considère que les questions écologiques ne relèvent soit pas de son objet, soit d'un sous-champ de la discipline qui s'appelle économie de l'environnement. Donc, dans ces grandes revues que vous avez citées, les gens considèrent qu'il y a d'autres économistes qui s'occupent marginalement de l'environnement et qui publient dans leurs revues, qui sont des revues d'économie de l'environnement. Donc, c'est le point que je soulevais tout à l'heure. La plupart des autres économistes ne s'intéressent jamais à cette question d'interdépendance des espèces. Ceux qui le font dans le champ de l'économie de l'environnement le font en règle générale en passant par un système de prix, c'est-à-dire en donnant un prix à la nature, avec cette notion de service écologique en particulier. Et il existe une petite hétérodoxie qui s'appelle l'économie écologique, qui est un petit peu différente de l'économie de l'environnement, qui là s'appuie sur des travaux beaucoup plus hétérodoxes, notamment ceux de Nicolas Georgescu-Rogan, et qui a un peu plus conscience de cette notion d'interdépendance des espèces, d'interdépendance du vivant, qui considère un peu moins les autres espèces comme des ressources, mais c'est un champ qui est à la fois très marginal dans la discipline, très peu reconnu à l'intérieur de la discipline, et un champ qui... lui aussi a tendance à être cannibalisé, en fait, par l'économie de l'environnement, qui a malgré tout Et c'est aussi sans doute le péché originel de Nicolas Jean-Chesquourgen, qui a malgré tout lui aussi tendance à raisonner en termes de rareté, qui a malgré tout lui aussi tendance à raisonner en termes de ressources. Or, si on se place d'un point de vue qui n'est pas naturaliste, eh bien les ressources, ça n'existe pas. La rareté, ça n'existe pas. Ça, ce sont des constructions théoriques qui datent du XVIIIe siècle, du début de la science de l'économie politique. Et donc, mon idée, c'est que même l'économie écologique, d'un certain point de vue, il faudrait qu'elle sorte de ces conceptions économicistes qui nous enferment dans le paradigme naturaliste, celui de la rareté et des ressources. Si la nature, ça n'existe pas, alors il n'y a ni rareté, il n'y a rien de rare, et il n'y a rien qui puisse être considéré comme des ressources. Ce à quoi il faut réfléchir aujourd'hui, c'est à la grande interdépendance du vivant, en particulier à des échelles territoriales données.
On comprend bien avec votre conclusion qu'en fait, cette science économique n'est jamais sortie du grand partage. Et alors ça, c'est quand même curieux que cette discipline académique se soit absolument coupée à tous les savoirs des sciences humaines actuellement, l'anthropologie et la philosophie. Enfin, c'est très très étonnant, c'est comme s'ils n'avaient jamais lu ni Bruno Latour ni Philippe Descola. Enfin, c'est assez, ce point aveugle est tout de même très inquiétant sur comment c'est possible que des personnes sérieuses, ou en tout cas dites sérieuses, soit aveugle à ce point-là à pourtant des penseurs qui sont mis sur le devant de la scène. Enfin, ignorer Bruno Latour, c'est de l'imbécilité tout de même. Et pareil pour Philippe Descola. Enfin, là, on est plus que dans de l'aveuglement. On est dans de l'idiotie pure. Et un nom revient ces temps-ci actuellement dans les sciences humaines, c'est celui de William Nordhaus. Je ne sais pas si je le prononce bien, assez célébré, puisqu'il a reçu quand même en 2018 le prix de la Banque de Suède, donc l'équivalent du Nobel de l'économie, enfin, on va dire le Nobel d'économie. Et vous lui jetez un sort, parce qu'il a dit une imbécilité incroyable et effroyable, puisqu'il recherchait un niveau de réchauffement optimal, en fait. Donc lui était un peu au courant de la catastrophe climatique et écologique, mais sa pensée c'était de dire plutôt non, ça va, tout va bien, si ça se réchauffe, tant mieux, ça sera super pour l'économie. Enfin, je suis un peu caricatural, mais lui doit l'être aussi.
Oui, c'est un petit peu caricatural, mais vous n'êtes pas très loin de la vérité. Il y a des travaux très importants sur William Nordhaus, en particulier ceux d'Antonin Potier, qui est un économiste de l'École des hautes études en sciences sociales, qui nous explique sa recherche de température optimale pour le climat, qui est bien supérieure aux 2 degrés du GIEC, hein, ou 1,5 ou 2 degrés du GIEC. En effet, et pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, pour des raisons assez simples qui ramènent toujours au problème que j'ai soulevé précédemment, c'est que l'impact du réchauffement est envisagé par Nordhaus et la plupart des économistes mainstream dominants du point de vue de l'agriculture, en fait. Point de vue de l'agriculture, agriculture qui représente très peu points de pourcentage du PIB des grands pays industrialisés. Donc, si on considère que le réchauffement climatique peut aller au-delà de 2 degrés, c'est parce que tout cela n'aura un impact que sur l'agriculture, que l'agriculture est un pan relativement faible des pays industrialisés, et donc finalement, au bout du compte, eh bien, la croissance n'en sera que assez peu impactée. Et évidemment, tout cela, c'est faire fi de toutes les interdépendances entre les espèces vivantes et le fait que l'on casse ces chaînes d'interdépendance. Eh bien, ces économistes ne le prennent jamais en compte, ce qui aura évidemment des effets dramatiques sur les sociétés humaines et certainement pas seulement sur les seuls pans de l'agriculture.
Et alors, vous terminez votre conclusion ainsi. L'économie peut-elle contribuer à cette science nouvelle et globale du vivant et de ces relations dont parle l'anthropologue? C'est possible, et si elle ne le fait pas, elle ne risque pas seulement d'être fort mal jugée par nos descendants, ce qu'elle sera sans doute, Elle perdra rapidement son statut de science humaine, continuez-vous, donc elle perdra rapidement son statut de science humaine et sociale qui a quelque chose à dire sur un monde bouleversé par le nouveau régime climatique. J'ai enfin de dire, enfin c'est dit, c'est la fin de la conclusion, ça y est, maintenant nous pouvons avec vous en être pleinement d'accord. Et alors, on attend du coup de vous que vous continuez ainsi votre recherche et que vous trouviez dans le savoir historique que vous avez mobilisé quelques éléments de, on va dire, de solution, et vous le trouvez dans la physique économique linéenne qui pourrait être un savoir ancien bon à penser pour sortir de cette impasse théorique.
Oui, il est très vraisemblable que dans un monde de plus en plus conflictuel, en fait, lié au nouveau régime climatique et donc à l'accaparement des dernières, alors je vais utiliser le terme qu'il ne faut pas utiliser, le terme ressources, l'accaparement des dernières ressources disponibles, des terres arables, du bois, des minerais, tout cela va vraisemblablement nous entraîner dans une très forte conflictualité qu'on pourrait qualifier de néo-mercantiliste, hein, en référence à une forme du capitalisme du XVIIe et XVIIIe siècle fondée justement sur la force et l'imbrication forte de l'appareil militaire et de l'appareil économique. Donc dans une telle situation, le mécanisme des prix, le mécanisme de la concurrence, les abstractions des économistes mainstream, va probablement avoir de moins en moins d'importance. On va revenir à du concret, on va revenir à de la matérialité, on va revenir à des enjeux locaux et globaux très, très ancrés dans le concret. De ce point de vue, il est vraisemblable que la science économique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui va avoir de moins en moins de choses à nous dire. Et elle va avoir de moins en moins de solutions, en fait, à nous donner dans un monde tel que celui-ci. Donc, ce que j'appelle de mes voeux, effectivement, c'est cette science beaucoup plus globale dont l'anthropologue Philippe Descola a parlé dans ses entretiens avec Pierre Charbonnier en particulier, l'idée selon laquelle eh bien, il faut réunir aujourd'hui à la fois une partie des sciences du vivant, l'écologie scientifique, je ne parle pas de l'écologie politique, là, je parle de l'écologie scientifique, un certain nombre de sciences qui s'apparentent à l'histoire naturelle, l'anthropologie, l'histoire et une économie qui serait renouvelée, c'est-à-dire qui ne penserait plus au sein du paradigme naturaliste en termes de rareté et de ressources, mais d'interdépendance des espèces, pour tenter de créer un savoir nouveau qui permettrait à nos sociétés de, je ne sais pas si on peut dire de faire face, mais tout au moins de comprendre les enjeux du nouveau régime climatique et de l'effondrement des populations animales et végétales, et de pouvoir espérer nous donner un certain nombre de solutions pratiques vernaculaire.
Et est-ce que vous la voyez émerger actuellement ? Est-ce qu'il y a des économistes, des penseurs, des théoriciens que vous voyez réfléchir à cette question-là, s'emparer de ce type de travaux historiques en disant « Ah, là, peut-être, il y a quelque chose à utiliser actuellement », c'est-à-dire, en gros, réactualiser des savoirs que vous avez, vous, là, identifiés, mais ça, peut-être d'autres aussi, mais en tout cas les réactualiser en disant voilà comment ils pourraient peut-être être opérants à notre époque, dans nos États, dans notre manière de faire actuelle avec notre économie globalisée.
Oui, je pense qu'il y a à la fois des pratiques locales qui réémergent dans des collectifs tout autour de la planète et qui réactivent des savoirs locaux qui sont susceptibles de maintenir les populations humaines dans des bonnes conditions de vie ou de meilleures conditions de vie. Et il y a également un mouvement, et alors là je vais vous renvoyer à l'ouvrage d'Antoine Mismer et Harold Levrel, ouvrage récemment paru, qui justement présente un certain nombre d'innovations, je dirais, autour de l'économie et de l'agroécologie, avec à la fois des pratiques et des réflexions théoriques sur ce que pourrait être une science du vivant qui soit au carrefour des sciences de l'homme et des sciences de la nature. Donc, les choses sont en gestation pour le moment. Les choses sont en gestation et la force des disciplines académiques, la question de la façon dont les gens dans l'académie sont recrutés, sont sélectionnés, sont formés, permet encore difficilement l'apparition de cette science nouvelle. Mais on ne peut que l'appeler de nos voeux et il semblerait que des initiatives émergent un peu partout à travers la planète.
Merci beaucoup, Arnaud.
Merci à vous.